Radio Vatican, France et Afrique.
À mes auditeurs, bienvenue et c'est toujours avec joie que je vous retrouve pour cette nouvelle édition de notre programme. En actualité de l'Église, nous vous proposerons ce qu'ont été les principales activités du pape au cours de la semaine avant d'aller en Côte d'Ivoire, en République démocratique du Congo, au Togo. En ce qui est de l'actualité sociopolitique africaine, les pays concernés seront notamment le Burkina Faso, le Mali, le Nigeria. Bienvenue encore une fois à toutes et à tous et bonne condition d'écoute de nos programmes que nous émettons depuis la cité du Vatican.
Radio Vatican, France et Afrique, Jean-Pierre Bojoko.
C'est par la semaine du pape que nous ouvrons l'actualité de l'Église. Donatien Niembo.
Le pape a reçu samedi en audience privée tout d'abord le cardinal Michael Czerny, sous-secrétaire de la section migrants et réfugiés du Dicaster pour le service du développement humain intégral. Ensuite, le cardinal Marc Ouellet, préfet de la congrégation pour les évêques, suivi de monsieur Georges-Henri Johannes, ambassadeur d'Afrique du Sud en visite de fin de mandat, monsieur Luigi Sbarra, secrétaire général de la Confédération italienne des syndicats de travailleurs, et enfin les jeunes du projet Policoro de la conférence épiscopale italienne. Le Saint-Père a nommé samedi nonce apostolique au Canada, Mgr Ivan Jurkovic, qui était jusqu'à présent observateur permanent du Saint-Siège auprès de l'Office des Nations Unies. Vendredi, le pape avait reçu en audience privée tout d'abord Mgr Filippo Iannone, président du Conseil pontifical pour les textes législatifs, ensuite Mgr Stéphane Oster, évêque de Passo en Allemagne, puis le cardinal Giuseppe Petrocchi, archevêque d'Aquila en Italie, puis Mgr Michael Hans-Werner-Koch, ambassadeur d'Allemagne en visite de fin de mandat, et enfin le cardinal Giuseppe Bettori, archevêque de Florence en Italie. Au chapitre des nominations, vendredi, le Saint-Père avait nommé nonce apostolique en Haïti Mgr Francisco Escalante Molina, qui était jusque-là nonce apostolique en République du Congo et au Gabon. Par ailleurs, le Saint-Père avait nommé consulteur du synode des évêques Mgr Erio Castellucci, archevêque de Modena Nonantola et évêque de Carpi en Italie, Mgr Pierangelo Sequeri, président de l'Institut pontifical théologique Jean-Paul II pour les sciences du mariage et de la famille, Madame Myriam Villens, professeure de droit canonique à l'Université de Erfurt en Allemagne. Le pape avait nommé jeudi Mgr Adolfo Tito Ilana, nonce apostolique en Israël et à Chypre et délégué apostolique à Jérusalem et en Palestine. Mercredi, le Saint-Père avait tenu dans la cour Saint-Damas du palais apostolique son audience générale hebdomadaire, poursuivant sa catéchèse sur la prière avec cette fois-là l'accent sur Jésus comme modèle et âme de toute prière. Il avait été rendu public mardi la constitution apostolique Pachite Gregem Dei, par laquelle le pape François apporte des modifications au livre 6 du code de droit canonique à propos des sanctions pénales dans l'Église. Pour plus de précisions sur cette constitution apostolique, visitez notre site www.vaticannews.va. Le même mardi, le pape invitait les fidèles pour ce mois de juin de prier pour les jeunes qui se préparent au mariage avec le soutien d'une communauté chrétienne, qu'ils grandissent dans l'amour avec générosité, fidélité et patience. Le Saint-Père avait reçu lundi en audience privée tout d'abord le cardinal Peter Tokson, préfet du Dicaster pour le service du développement humain intégral, ensuite le cardinal Mauro Gambetti, archiprêtre de la basilique Saint-Pierre, vicaire général de sa sainteté pour la cité du Vatican et président de la fabrique de Saint-Pierre, puis monsieur Andrea Monda, directeur de l'Osservatore Romano, et enfin la délégation de la Fédération italienne de basketball à l'occasion du 100e anniversaire de sa naissance. Toujours lundi, le pape avait nommé évêque du diocèse de Morogoro en Tanzanie Mgr Lazarus Vitalis Msimbe, qui était jusqu'à cette nomination administrateur apostolique du même diocèse. En fin d'après-midi de lundi, le pape avait dirigé la prière mariale du rosaire dans les jardins du Vatican en conclusion du marathon de prière dont le thème était « De toute l'Église, la prière vers Dieu s'est élevée sans cesse ». Le pape présidera dimanche à 17h30 heure de Rome en la basilique Saint-Pierre la messe de la solennité du Corpus Domini, le corps et sang du Christ. Cette messe sera retransmise sur nos différentes plateformes, notamment sur les ondes courtes sur la fréquence 15.565 kHz. Notez bien sur la fréquence 15.565 kHz.
Le Conseil épiscopal et justice et paix Togo, dans le cadre du projet Consolidation de l'engagement des leaders, des jeunes et des femmes à la citoyenneté et à la solidarité, un projet allant d'octobre 2020 à septembre 2023, a initié des formations en citoyenneté et en civisme sur le plan national du 31 mai au 4 juin dernier. En tout, 840 jeunes, 210 femmes et 280 leaders ont bénéficié des 10 formations au cours des ateliers qui ont été organisés dans 14 communes du Togo. Les participants ont suivi avec intérêt plusieurs modules sur la citoyenneté et le civisme, à savoir l'État, la nation, les institutions de la République, démocratie et État des droits, principes de la bonne gouvernance, citoyenneté et civisme, droits et devoirs du citoyen, etc. En Côte d'Ivoire, l'Institut de théologie de la Compagnie de Jésus, ITCJ, a célébré le samedi 29 mai dernier l'ouverture de l'année ignatienne qui coïncide avec le 500e anniversaire de la blessure d'Ignace de Loyola, le fondateur de la Compagnie de Jésus, durant la bataille de Pampelune en Espagne. Cette ouverture de l'année ignatienne a eu lieu au cours d'une célébration eucharistique présidée par Mgr Boniface Ziri, évêque d'Abengourou, en présence de plusieurs membres de la famille ignatienne en Côte d'Ivoire et d'invités. Notre correspondant local nous donne plus de détails.
Les jésuites en Côte d'Ivoire ont ouvert l'année ignatienne dans une grande ferveur à la chapelle de l'Institut théologique de la Compagnie de Jésus, ici à Abidjan-Cocody. La messe présidée par Mgr Boniface Ziri, dans son homélie, le représentant du cardinal Jean-Pierre Coutrois, archevêque d'Abidjan, a mis un point d'honneur sur la vie de ce grand saint de l'Église qui a fait don de sa personne à la communauté et plus particulièrement aux pauvres. L'évêque d'Abengourou leur a indiqué que le défi qui s'impose à eux aujourd'hui en Afrique sera de réconcilier ceux qui sont divisés pour vivre dans l'unité.
Le Jésus, c'est vraiment l'ami essentiel en tout de Jésus-Christ. Ils sont comme des abeilles qui distillent le miel de l'évangile dans le monde. Donc, pour nous aujourd'hui, il faut discerner, puisque c'est ça, Saint Ignace a eu le don de discerner. Aujourd'hui, quel est le défi essentiel pour l'Afrique? Ce que le pape leur a confié aussi, c'est que, bon, là où ils sont, leur mission, c'est de réconcilier ceux qui sont divisés pour vivre dans l'unité.
Pour le père Jean Bessenguet, directeur de l'UTCJ, le 500e anniversaire de Saint Ignace de Loyola est une invitation au renouvellement.
Cette célébration, c'est une invitation au renouvellement, à la méditation, à la réappropriation. Et nous en Afrique, nous sommes invités à réfléchir, à échanger nos expériences pour que cet héritage ignatien aide à l'évangélisation en Afrique, aide à la contribution de l'Église dans la transformation de nos sociétés et de nos mentalités.
Marcel Ariston Blé, Abidjan, Côte d'Ivoire, pour Radio Vatican.
Les sœurs trinitaires de Valence, œuvrant en République démocratique du Congo, invitent à approfondir dans la foi dans la Sainte Trinité. C'est ce que nous vous faisons découvrir à travers ce reportage.
Faire connaître et aimer la Sainte Trinité, c'est le charisme de la congrégation des Sœurs Trinitaires de Valence, récemment installée dans la sous-paroisse Saint-Hubert de l'archidiocèse de Kinshasa. Le dimanche 30 mai, en la solennité de la Sainte Trinité, les trois religieuses membres de la communauté de Kinshasa-Kinkolé ont renouvelé leur engagement au cours de la messe présidée par le père Joseph Ntumba, supérieur provincial des missionnaires Oblates Marie Immaculée. Sœur Madeleine Mokono a invité l'assemblée de Saint-Hubert à aimer et à approfondir la foi dans la Sainte Trinité.
La fête de la Sainte Trinité est pour nous une solennité que nous préparons spirituellement. Notre charisme est adoration, communion, libération. Faire connaître et aimer, attentive aux appels de l'Église et aux besoins des temps, avec un souci particulier des pauvres. Nous consacrons notre vie à la prière, au travail, à la souffrance, à la libération de toutes les formes de servitude. Le souci des captifs nous a été légué par notre bienheureux Père Saint-Jean de Mata. Nous les aidons par notre prière, notre offrande et notre service. Alors nous lançons l'appel à tous ceux qui veulent découvrir notre charisme. La porte est bien ouverte.
Jean-Baptiste Malengue Kalunzu pour Radio Vatican.
Dans quelques instants, l'actualité sociopolitique.
Les sources sécuritaires et locales ont indiqué samedi qu'une centaine de civils avaient été tués dans le nord du Burkina Faso à Solane, l'attaque la plus meurtrière enregistrée dans ce pays depuis le début des violences djihadistes en 2015. L'arrivée d'une délégation gouvernementale conduite par le Premier ministre Samalou Kone a marqué samedi la réouverture de l'aéroport international de Goma dans l'est de la République démocratique du Congo, fermé à la suite de l'éruption du volcan Nyiragongo le 22 mai dernier. Toujours en République démocratique du Congo, une réforme de la commission électorale a été votée vendredi par l'Assemblée nationale pour tenter d'assurer la transparence des prochaines élections et la stabilité politique. Le texte qui doit désormais être examiné par le Sénat prévoit une commission électorale de 15 membres, 5 de la majorité, 5 de l'opposition et 5 représentants de la société civile. Au Mali, au moins 11 membres d'une communauté Touareg ont été tués jeudi par des assaillants non identifiés près de Menaka dans le nord-est du Mali, ont indiqué samedi une coalition de groupes armés pro-Bamako et un élu local. Dans un autre registre, Choguel Karkala Maïga, pressenti pour devenir premier ministre de la transition malienne sous présidence militaire, a assuré vendredi que son pays tiendrait ses engagements internationaux au moment où se concrétisait sur le terrain la décision française de suspendre la coopération militaire après 2 coups d'État. L'accès à Twitter était restreint samedi au Nigeria au lendemain de l'annonce par le gouvernement de la suspension des activités du réseau social dans ce pays après la suppression d'un tweet du président Muhammadu Buhari. L'association des coopérateurs de télécommunications sous licence du Nigeria a confirmé que ses membres avaient reçu des instructions officielles des autorités de régulation d'Internet dans le pays pour suspendre l'accès à Twitter et s'y étaient conformés.
Radio Vatican, Français-Afrique, Jean-Pierre Bojoko.
Leur marche interdite par le pouvoir, les militants du mouvement contestataire du Hirak en Algérie se sont réfugiés vendredi sur les réseaux sociaux pour manifester leur rejet des élections législatives organisées dans une semaine. Le père jésuite Jean-Paul Savy nous introduit à la méditation avec les lectures de la solennité du corps et sang du Christ.
Chers frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui la solennité du corps et du sang du Christ. Après la fête de la Pentecôte et de la Sainte Trinité, l'Église nous propose de méditer sur le don précieux que le Christ nous a laissé, le don de l'Eucharistie. La fête d'aujourd'hui nous donne l'occasion de nous arrêter un moment pour réévaluer l'importance de la présence du Christ dans notre vie. Que signifie pour nous communier au corps et au sang du Christ ? Quelle est la plus-value que Jésus-Eucharistie apporte à notre vie? Dans la première lecture, nous avons le récit de l'alliance que Dieu a conclue avec son peuple à travers le sacrifice du sang versé. Ce qui est important dans ce récit n'est pas le sacrifice en soi, mais c'est l'alliance que Dieu conclut avec son peuple et la réponse de ce dernier à l'amour de Dieu. En ce dimanche de la fête Dieu, ce récit nous interpelle sur nos engagements. Devant le sacrifice suprême de Jésus, comment évaluons-nous notre vie chrétienne? Quelle est aujourd'hui notre réponse à l'amour que Dieu nous a manifesté dans le don total de Jésus-Christ? En effet, sans amour, nos prières et nos sacrifices ne sont que peine perdue. La fête d'aujourd'hui nous permet de méditer de nouveau sur la manière dont Jésus a fait alliance avec nous et nous manifeste son amour. La deuxième lecture nous rappelle la grandeur de ce sacrifice du Christ. C'est le sacrifice de son propre sang. En effet, le sang représente la souffrance, la mort. Il symbolise aussi la vie. Cela signifie qu'à travers sa souffrance et sa mort, Jésus nous donne la vie. Par son sang, Jésus nous purifie de toutes nos infidélités et nous guérit de tout mal. La fête du corps et du sang du Christ nous rappelle donc à quel prix nous avons été rachetés. En contemplant Jésus dans l'Eucharistie, nous contemplons la source de notre salut. L'Eucharistie est le sacrement de notre foi. L'Eucharistie est la source et le sommet de notre vie chrétienne. La fête d'aujourd'hui nous permet de prendre conscience de ce qui nourrit notre vie spirituelle afin de revivre notre expérience de foi avec Dieu. Et l'évangile de ce dimanche nous situe dans le contexte de cette expérience de foi avec Dieu. Jésus nous offre son corps à manger et son sang à boire. Sans la foi, nous ne pouvons pas saisir l'importance de ses paroles. Dans un bref moment, prenons le temps de contempler Jésus sur la croix en essayant d'entendre ses propres paroles. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Voyons quel grand amour jaillit de ce sacrifice. Nous sommes invités aujourd'hui à prendre de nouveau conscience du grand amour de Dieu pour nous. Communier au corps et au sang du Christ, c'est nous engager à le suivre et à donner aussi notre vie pour les autres. Chers frères et sœurs, l'Eucharistie est le sacrement de l'unité. Voyons comment les grains de froment se fondent dans l'hostie pour devenir le pain de la vie. Voyons comment les grappes de raisin se pressent pour produire le même vin. Nous ne pouvons pas recevoir le même corps et le même sang du Christ et rester désunis. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas communion au sang du Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas communion au corps du Christ? En ce dimanche de la fête Dieu, prions les uns pour les autres, afin qu'en communiant au corps et au sang du Christ, nous devenions de plus en plus conscients de nos engagements chrétiens et de l'amour que nous devons avoir les uns pour les autres.
Place au Père jésuite Martin Bahati qui continue à nous présenter l'encyclique Fratelli Tutti du pape François.
Mes chers frères et sœurs, nous continuons la lecture méditative du deuxième point du troisième chapitre de la lettre encyclique Fratelli Tutti du Saint Père François sur la fraternité et l'amitié sociale. Rappelons que ce chapitre est intitulé « L'ouverture croissante de l'amour ». La fois passée, nous avons lu la première partie dans laquelle le pape nous invitait à la formation des sociétés ouvertes qui intègrent tout le monde. Aujourd'hui, dans la suite, le pontife réfléchit sur les compréhensions inadéquates d'un amour universel. Selon l'encyclique, l'amour qui s'étend au-delà des frontières a pour fondement ce que nous appelons l'amitié sociale dans chaque ville ou dans chaque pays. Lorsqu'elle est authentique, cette amitié sociale au sein d'une communauté est la condition de la possibilité d'une ouverture universelle vraie. Selon le pape, il ne s'agit pas du faux universalisme de celui qui a constamment besoin de voyager parce qu'il ne supporte ni n'aime son propre peuple. Celui qui a du mépris pour son propre peuple établit dans la société des catégories, de première ou de deuxième classe, des personnes ayant plus ou moins de dignité et de droits. De cette façon, il nie qu'il y a de la place pour tout le monde. Le pape insiste en stipulant ce qui suit. Je ne propose pas non plus un universalisme autoritaire et abstrait, conçu ou planifié pour certains et présenté comme une aspiration prétendue pour homogénéiser, dominer et piller. Il existe un modèle de globalisation qui soigneusement vise une uniformité unidimensionnelle et tente d'éliminer toutes les différences et toutes les traditions dans une recherche superficielle d'unité. Si une globalisation prétend tout aplanir, comme s'il s'agissait d'une sphère, cette globalisation détruit la richesse, ainsi que la particularité de chaque personne et de chaque peuple. Plus loin, le pape montre que ce faux rêve universaliste finit par priver le monde de sa variété colorée, de sa beauté et en définitive de son humanité. En effet, affirme le pape, l'avenir n'est pas monochromatique, mais est possible si nous avons le courage de le regarder dans la variété et dans la diversité de ce que chacun peut apporter. comme notre famille humaine a besoin d'apprendre à vivre ensemble dans l'harmonie et dans la paix, sans que nous ayons besoin d'être tous pareils.
Invité du jour.
Notre invité du jour est encore une fois le père Alain Mayama, religieux spiritain originaire de la République du Congo, Congo-Brazzaville, et membre de l'Association des religieux et religieuses d'Afrique et de Madagascar au service des généralats à Rome. Dans cette deuxième partie de l'entretien accordé à l'occasion de la Journée mondiale de l'Afrique, célébrée mardi 25 mai dernier, le père Mayama parle de la jeunesse africaine et du terrorisme.
La jeunesse africaine est déroutée et a perdu confiance. Parce qu'il y a un chômage criant, comme un avenir sans perspective vraiment. Et ne voient pas comment se sortir de leur situation. C'est-à-dire qu'ils font des études, il n'y a pas de travail. Et ils se sont comme abandonnés. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils pensent sortir du continent et aller ailleurs chercher le bonheur.
Cette immigration clandestine.
Et ici déjà en Italie, nous avons les nouvelles. Combien d'Africains périssent dans la mer? Parce qu'ils veulent trouver un lieu sûr où ils peuvent avoir de petits travail, faire quelque chose de leur vie. Malgré tous les diplômes qu'ils ont acquis au pays, ils n'ont pas toujours de perspective. Et cela s'explique aussi par les politiques que nous mettons en place. Après, tout est lié, hein, l'économie, la politique et l'éducation. Parce que nous formons les jeunes pour quel avenir et pour quel type de travail. Alors, il faut à ce niveau aussi refonder le système éducatif pour des objectifs précis qui répondent aux besoins de nos nations.
Et pensez-vous que cette migration clandestine de la jeunesse africaine est la solution?
Elle n'est pas la solution. Il faut trouver des moyens pour retenir les jeunes africains en Afrique. Il faut continuer à y travailler. Il faut que les dirigeants politiques et les sociétés civiles et toutes les forces vives de notre continent réfléchissent sur la question et mettent les moyens pour que nous gardions la jeunesse africaine en Afrique. Parce que ce sont les forces vives de notre continent et ce sont eux qui vont apporter justement le développement du continent. Mais il faut qu'on leur donne un cadre de vie meilleur, pas celui que nous le présentons aujourd'hui. Et c'est ça qui fait douter les jeunes Africains, qui les pousse à sortir du continent.
Le jeune Africain aussi qui doit prendre conscience de ce dont il est capable.
Absolument. Il doit se dire que le bonheur n'est pas seulement à l'extérieur. On en trouve aussi à l'intérieur le bonheur. Et il faut qu'il croie à ses talents, à ses énergies, à ses moyens de participer au développement de l'Afrique. Mais cela passe par une confiance en soi, d'abord. Après, confiance à la nation. Est-ce que j'ai une place dans cette nation? Même si j'ai confiance en moi-même, est-ce que la nation me donne une place pour pouvoir me réaliser comme personne?
Père, nous poursuivons toujours avec la question du terrorisme en Afrique. L'Afrique en proie au terrorisme qui ne cesse d'endeuiller les familles. Des milliers de personnes sont parties du fait de cette autre manière de faire.
Le terrorisme est une réalité en Afrique, malheureusement. Après, les causes, on les trouve dans la pauvreté, les exclusions. Et ce n'est pas une question facile, on va dire. Et parce que après, il y a plusieurs niveaux de terrorisme. Dans chaque zone géographique de l'Afrique, on trouve des groupes terroristes. Mais après, avec des objectifs un peu différents, selon les cas. Donc au Sahel, dans le Maghreb, en Afrique de l'Est, en Afrique de l'Ouest. Il y a aussi un terrorisme organisé un peu par l'extérieur. Il y a plusieurs causes à cela. Il y a la responsabilité des politiques africaines qui ne sont pas forcément acceptées par une catégorie de la population et peut-être que cette catégorie de la population se rebelle.
Alors, faut-il tuer pour se faire entendre?
Absolument non. Il faut justement peut-être que trouver des moyens pour... Parce que la question que nous nous posons aujourd'hui, pourquoi ces personnes-là se sont organisées en groupe terroriste? Quelles sont les causes? Et c'est une question délicate, j'avoue. Pour savoir vraiment pourquoi ce genre de réaction, de violence, pour pouvoir passer un message. On peut faire autrement. Et c'est ce que nous souhaitons, que ces groupes terroristes-là, justement, arrêtent tout ce qu'ils font. Mais il faut que ceux qui ont la possibilité de parler avec ces groupes-là, essayent d'écouter et en même temps des politiques pour freiner un peu, on va dire, l'avancée de ce terrorisme-là en Afrique.
L'Afrique a-t-elle les moyens?
Ok, nous avons quelques possibilités, mais après, aujourd'hui, on ne peut plus travailler isolé. Il faut travailler avec les autres. Alors, il faut que, au niveau de l'Union africaine, déjà, il faut réfléchir à une solution africaine. Sur le continent, je crois qu'il y a une commission qui réfléchit sur ces questions-là.
Au regard de tout ce que nous venons de dire, Père, votre mot de fin.
Moi, je vois des signes positifs. et des signes d'espérance pour l'Afrique. Je crois que les Africains doivent prendre conscience de leurs responsabilités dans la recherche de solutions de tout ce que nous vivons aujourd'hui.
Père Alain Mayama, religieux spiritain originaire du Congo-Brazzaville et membre de l'Association des religieux et religieuses d'Afrique et de Madagascar au service des généralats à Rome. Il répondait aux questions de Françoise Niamien.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
C'est par ici que nous mettons un point final à notre programme. Aujourd'hui, au nom de toute l'équipe du service français Afrique de Radio Vatican, Jean-Pierre Bodjoko vous remercie de votre écoute et de votre fidélité. Le rendez-vous, c'est pour demain, même heure, même fréquence, même radio.
Bato ba motema bolamu.